Chapitre 20. Contemplez ce spectacle, dit sur les marches du Trocadéro M. Bergeret à M. Goubin, son disciple qui essuyait le verre de son lorgnon. Voyez, dôme, minaret, flèche, clocher, tour, fronton, toit de chaume, d'ardoise, de verre de tuiles, de faïence colorée, de bois, de peau de bête, terrasses italiennes et terrasses mauresques, palais, temples, pagodes, kiosques, huttes, cabanes, tentes, châteaux d'eau, châteaux de feu, contrastes et harmonies de toutes les habitations humaines, féerie du travail, jeu merveilleux de l'industrie, amusement énorme du génie moderne qui a planté là les arts et métiers de l'univers. Pensez-vous, demanda M. Gobin, que la France tirera profit de cette immense exposition ? Elle en peut recueillir de grands avantages, répondit M. Bergeret, à la condition de n'en pas concevoir un stérile et hostile orgueil. Ceci n'est que le décor et l'enveloppe. L'étude du dedans donnera lieu de considérer de plus près l'échange et la circulation des produits, la consommation au juste prix, l'augmentation du travail et du salaire, l'émancipation de l'ouvrier. Et n'admirez-vous pas, M. Goubin, un des premiers bienfaits de l'exposition universelle ? Voici que, tout d'abord, elle a mis en déroute Jean Coq et Jean Mouton. Jean Coq et Jean Mouton, où sont-ils? On ne les voit ni ne les entend. Naguère, on ne voyait qu'eux. Jean Coq allait devant, la tête haute et le mollet tendu. Jean Mouton allait derrière, gras et frisé. Toute la ville retentissait de leur cocorico et de leur bé, 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 car ils étaient éloquents. Jouit un jour de cet hiver Jean Coq qui disait « Il faut faire la guerre, ce gouvernement l'a rendu inévitable par sa lâcheté ». Et Jean Mouton répondait « J'aimerais assez une guerre navale ». « Certes, disait Jean Coq, une naumachie serait congruente à l'exaltation du nationalisme. Mais ne pouvons-nous faire la guerre sur terre et sur mer? Qui nous en empêche ?» « Personne, répondait Jean Mouton, je voudrais bien voir que quelqu'un nous en empêchât. Mais auparavant, il faut exterminer les traîtres et les vendus, les juifs et les francs-maçons, c'est nécessaire. »« Je l'entends bien ainsi, disait Jean Coq, et ne partirai en guerre que lorsque le sol national sera purgé de tous nos ennemis. » Jean Coq est vif, Jean Mouton est doux, mais ils savent trop bien tous deux comment on trempe les énergies nationales pour ne pas s'efforcer par tous les moyens possibles d'assurer à leur pays les bienfaits de la guerre civile et de la guerre étrangère. Jean Coq et Jean Mouton sont républicains. Jean Coq vote à chaque élection pour le candidat impérialiste et Jean Mouton pour le candidat royaliste. Mais ils sont tous deux républicains plébiscitaires, n'imaginant rien de mieux pour affermir le gouvernement de leur choix que de le livrer au hasard d'un suffrage obscur et tumultueux. En quoi ils se montrent d'habiles gens ? En effet, il vous est profitable, si vous possédez une maison, de la jouer au dé contre une botte de foin, car par ce moyen, vous risquez de gagner votre maison, ce dont vous serez bien avancé. Jean Coq n'est pas pieux, et Jean Mouton n'est pas clérical, bien qu'il ne soit pas libre penseur. Mais ils vénèrent et chérissent la moinerie qui s'enrichit à vendre des miracles et qui rédige des papiers séditieux, injurieux et calomniateurs. Et vous savez si une telle moinerie pullule en ce pays et le dévore. Jean Coq et Jean Mouton sont patriotes. Vous pensez l'être aussi, et vous vous sentez attaché à votre pays par les forces invisibles et douces du sentiment et de la raison. Mais c'est une erreur, et si vous souhaitez de vivre en paix avec l'univers, vous êtes un complice de l'étranger. Jean Coq et Jean Mouton vous le prouveront bien en vous assommant à coups de matraque, aux cris de guerre, « La France aux Français !» Et ce sera bien fait pour vous. La France aux Français, c'est la devise de Jean Coq et de Jean Mouton. Et comme évidemment ces trois mots rendent un compte exact de la situation d'un grand peuple au milieu des autres peuples, expriment les conditions nécessaires de sa vie, la loi universelle de l'échange, le commerce des idées et des produits, comme enfin ils renferment une philosophie profonde et une large doctrine économique, Jean Coq et Jean Mouton, pour assurer la France aux Français, avaient résolu de la fermer aux étrangers, étendant ainsi par un coup de génie aux personnes humaines le système que M. Méline n'avait appliqué qu'aux produits de l'agriculture et de l'industrie pour le plus grand profit d'un petit nombre de propriétaires fonciers. et cette pensée que conçut Jean Coq d'interdire le sol national aux hommes des nations étrangères s'imposa par sa beauté farouche à l'admiration d'une assez grande foule de menus bourgeois et de limonadiers. Jean Coq et Jean Mouton n'ont point de méchanceté. C'est par innocence qu'ils sont les ennemis du genre humain. Jean Coq a plus d'ardeur, Jean Mouton plus de mélancolie. Mais ils sont simples tous deux, et ils croient ce que dit leur journal. C'est là qu'éclate leur candeur, car ce que dit leur journal n'est pas aisément croyable. Je vous atteste, imposteurs célèbres, faussaires de tous les temps, menteurs insignes, trompeurs illustres, artisans fameux de fictions, d'erreurs et d'illusions, vous dont les fraudes vénérables ont enrichi la littérature profane et la littérature sacrée de tant de livres supposés, auteurs des ouvrages apocryphes grecs, latins, hébraïques, syriaques et chaldaïques qui ont abusé si longtemps les ignorants et les doctes, faux Pythagore, faux Hermès trismégiste, faux Sanconiaton, rédacteurs fallacieux des poésies orphiques et des livres sibyllins, faux Énoch, faux Esdras, pseudo-Clément et pseudo-Timothée, et vous, seigneurs abbés, qui, pour vous assurer la possession de vos terres et de vos privilèges, forjâtes, sous le règne de Louis IX, des chartes de Clotaire et de Dagobert, et vous, docteurs en droit canon, qui appuyâtes les prétentions du Saint-Siège sur un tas de sacrés décrétales que vous aviez vous-même composés, et vous, fabricants à la grosse de mémoires historiques, Soulavie, Courchamp, Touchard Lafosse, Faux Weber, Bourrienne Faux, vous, fins bourreaux et policiers fins, qui écrivîtes sordidement les mémoires de Samson et les mémoires de M. Claude, et toi, vrai Lucas, qui de ta main as su tracer une lettre de Marie-Madeleine et un billet de Vercingétorix, je vous atteste, vous, dont la vie entière fut une œuvre de simulation, fausse Merdis, faux Néron, fausse Pucelle d'Orléans, qui trompâtes les frères mêmes de Jeanne d'Arc, faux Démétrius, faux Martin Guerre et faux duc de Normandie, je vous atteste, ouvriers en prestige, faiseurs de miracles par qui les foules furent séduites, Simon le magicien, Apollonius de Tyane, Cagliostro, comte de Saint-Germain, je vous atteste, voyageurs qui, revenant de loin, eûtes toute facilité de mentir et en usâtes pleinement, vous qui nous dites avoir vu les cyclopes et les lestrigeons, la montagne dément, l'oiseau roc et le poisson évêque, et vous, gens de Maindeville, qui rencontrâtes en Asie des diables crachant du feu, et vous, beaux faiseurs de contes, de fables et de gabes, ô Mamerloi, ô Till l'Espiègle, ô baron de Münchhausen, et vous, espagnols chevaleresques et picaresques, grands hableurs, je vous atteste, soyez témoins qu'à vous tous, vous n'avez pas accumulé autant de mensonges en une longue suite de siècles que n'en assemble en un jour un seul des journaux que lisent Jean Coq et Jean Mouton. Après cela, comment s'étonner qu'ils aient tant de fantômes dans la tête ?